Bonsoir, amis auditeurs et cher Daniel Mermet. Ben, écoutez, c'est de nouveau Marie-Dominique qui a failli embarquer sur la Royal Air Maroc 771 ce soir. Nous avons été débarqués après 1h30 de confusion dans la cabine de l'avion. J'ai vu passer 19 policiers, un quart de pompiers, un médecin de l'aéroport de Paris, des cris, des passagers qui sont tombés dans les pommes, les pauvres expulsés qui étaient au bord de enfin bon, c'est l'horreur totale. Et le pire, c'est que les passagers qui ont osé protester se sont fait contrôler le papier, le portable, et il y en a même un qui était assis en face de moi et qui a été expulsé de l'avion avec des menottes. Voilà, vive la France. Et c'est nous, les pauvres cons de contribuables, qui allons payer ça. Voilà. Vive la France des Lumières.
Oui, bonjour, c'est Antoine du restaurant Le Cabaret, là. Je suis Pantois, quoi, je viens d'écouter votre émission. Je me suis régalé, mais alors, celle de mercredi, là, c'est le top du top du top. Quelle poésie, quelle... Oh là là. Bon, allez. À demain, ciao.
Bonjour, Sophie à la Réunion. Voilà, je suis un petit peu énervée par la dame qui veut s'apitoyer sur le sort de Madagascar. C'est une île que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai épousé un malgache, j'y vais depuis 10 ans. Je connais en particulier très bien les Afmanis dont elle parle, qui sont un peuple de sculpteurs classé patrimoine mondial immatériel de l'humanité pour son savoir-faire dans la sculpture du bois. Alors, dire que Daniel Mermet ne connaît pas Madagascar, c'est faux, parce que j'ai entendu il y a quelques années de ça une émission formidable sur les émeutes de 47 et qui montrait bien le rôle que la France a joué à ce moment-là et qu'elle joue encore aujourd'hui dans la pauvreté de cette île, qui, c'est vrai, est une île, si on la regarde de l'extérieur, qui paraît très pauvre, mais en même temps, tous les malgaches que je connais, qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient sur l'île de Madagascar, ils en ont un petit peu marre que leur île soit toujours présentée sous l'aspect misérabiliste. Alors allez à Madagascar, parce que vous verrez une île qui est formidablement riche. Elle est riche sur le plan de la nature, elle est riche surtout sur le plan de la culture. Les malgaches sont des gens ouverts, curieux, protecteurs vis-à-vis de l'étranger, et franchement, c'est des gens formidables. Vraiment, pour moi, c'est un des peuples les plus riches que j'ai rencontrés. D'ailleurs, c'est pas pour rien si j'ai depuis 10 ans. Voilà, alors c'est vrai, il faut les aider, c'est vrai, les sociétés, les ONG, la société civile qui se mobilisent, c'est bien. Mais les Afmanis, s'ils sont inaccessibles, en fin de compte, ils sont accessibles uniquement à pied, hein, c'est vrai. Ça fait pas d'eux des gens pauvres plus que nous. Finalement, ils sont dans un mode de vie très frugal, mais aussi dans un mode de vie très sage. C'est une frugalité qu'ils n'ont pas choisie, certes, mais qui, quand on les regarde vivre, finalement, nous rend plutôt envieux, parce qu'ils sont solidaires, ils ont du sens dans leur vie, et surtout, ils savent qui ils sont. Moi qui vis ici à La Réunion, parfois je me dis que les Réunionnais sont beaucoup plus riches matériellement, mais beaucoup plus perdus dans leur tête. Alors j'aimerais qu'on ait une belle image de Madagascar, et puis Mermet, si vous avez l'occasion d'y aller, ben, n'hésitez pas, ça vaut la peine. Merci.
Bonjour, c'est Jocelyne de Lyon. Merci Daniel pour cette magnifique émission de ce mercredi, avec des tranches de voyage qui m'ont transportée. Je voudrais rassurer l'auditrice de 75 ans qui a téléphoné et lui dire que lorsque nous disons que nous pourrions regretter Chirac, c'est de l'humour, du deuxième degré, car notre mémoire n'est pas aussi courte. Mais justement, avec Monsieur Chirac, on avait l'impression d'avoir touché le fond. Et avec Sarko, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de fond. Et si nous nous moquons de la petite taille de Sarko, c'est parce qu'il ne l'assume pas et que sa petite taille est inversement proportionnelle à son incommensurable ego, à son incommensurable manque d'éducation, de savoir-vivre, de culture, à l'immense, l'incommensurable désastre dans lequel il nous a conduits en qualité de ministre et continue comme président, a entraîné les gens qui vivent en France. Évidemment, madame, vous êtes sûrement une jolie femme d'1m53, comme vous l'avez confié. J'en suis persuadée, et la valeur ne se mesure pas au nombre de centimètres. Et l'on dit d'ailleurs que c'est dans les petits pots que l'on trouve les meilleurs onguents. Quant à la légalisation de l'avortement, si elle a été votée sous Giscard et grâce à madame Veil, dont ce fut un des combats, elle n'a pu l'être que grâce aux voix des députés de gauche. Sinon, la loi ne passait pas. Allez, de Chirac, on retiendra quand même son refus de la guerre en Irak. Et on se souviendra que Sarko aura été une des dernières groupies du président Bush. Bonne émission à tous. Bonjour à tous les auditeurs et à toute l'équipe.
Eh bien, bonjour et merci, amis auditeurs, amis modestes et géniaux de là-bas si j'y suis, pour tous ces messages. Bonjour de San Diego, bon baiser de San Diego en Californie où nous venons d'arriver. Nous venons d'arriver cette nuit. D'où je vous parle, j'entends un grondement, mais c'est un grondement sympathique parce que c'est la mer. On est au bout du mur, on est au bout de la frontière dans cette ville que nous allons découvrir aujourd'hui même. Et hier, eh bien, on était à Fort Irwin, c'est un endroit mémorable dans le désert du Mojave entre Los Angeles et Las Vegas. C'est un immense territoire sur lequel on entraîne les militaires. C'est le National Training Center où s'entraînent les militaires qui vont partir pour l'Irak ou pour l'Afghanistan. Et c'est une ville de 9000 habitants qui sont tous des militaires et où passent les militaires, donc je le disais, qui vont partir et qui s'entraînent avant de partir. Il y a des entraînements dans des décors reconstruits, des décors sont Hollywood façon Disney, qui représentent des villages irakiens, des quartiers de villes irakiennes, et dans lesquels ces militaires jouent des scénarios, des attaques, des attentats, des voitures suicides, des combattants suicides, des insurgés, des chiites, des sunnites, etc., selon des scénarios imaginés par les militaires, par les gradés. Et il y a, c'est ça le plus extraordinaire, des figurants qui sont des Irakiens, mais qui ne sont pas de faux Irakiens, qui sont de vrais Irakiens américains vivant aux États-Unis et qui sont les figurants de ces scénarios et de ces entraînements et qui sont habillés en Irakiens et qui jouent le rôle des Irakiens. C'est assez touchant, c'est assez étonnant et c'est assez pathétique pour tout dire. Ce sera l'objet d'un de nos reportages. Mais tout ça, et ce qui vient d'être dit dans le dernier message, nous ramène à, effectivement, à l'amitié très forte entre notre président Sarkozy et le président Bush. Et le président Bush, ça nous renvoie à toute cette histoire, et notamment à Guantanamo. Et oui, à Guantanamo, que va-t-on faire de Guantanamo? En tout cas, nous, on va y retourner aujourd'hui avec une histoire assez singulière, dont vous vous souvenez peut-être, celle de Mourad Kournaz, le taliban de Brême, qui a séjourné à Guantanamo, et malgré que les États-Unis aient reconnu l'innocence de ce garçon, son gouvernement allemand n'a pas souhaité le faire revenir, et donc il a séjourné à Guantanamo, et c'est ce qu'il a raconté dans un livre, et c'est ce qu'il va nous raconter aujourd'hui dans ce numéro de Là-bas si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés à la boîte vocale de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, il est 5h à San Diego.
Bonjour, si vous habitez aux alentours de la place de Clichy à Paris, 18e arrondissement, un nouveau repère se met en place au café Le Glacier, 6 rue Ganneron. Le premier rendez-vous le vendredi 29 février, 19h. 29 février, 19h, café Le Glacier, 6 rue Ganneron, 75 018 Paris. Premier repère de la place de Clichy. Voilà, à bientôt. Venez nombreux. Ciao, ciao.
Help! You say you're fucking for your head? Yeah. Are you fucking for your head? No, you fucking stay right there.
Where is
it? Are you admitting to me that you are a fucking fighter? Is that what you are? Huh? Huh?
Yeah.
Yes?
Yeah.
You are a fighter?
Yeah.
Holy fucking,
yeah.
You know what you're saying?
dangerous.
Very, very dangerous world.
September 11th.
September 11th. September 11th.
Radical ideology of hate.
Un gardien du camp te dit, est-ce que tu sais ce que les Allemands ont fait aux Juifs? On va te traiter de la même façon.
C'est un Américain parlant allemand.
Tu, auparavant, tu avais entendu parler de Guantanamo, Guantanamo Bay.
Ich habe einen Freund gehabt, der eine Reise gemacht hat in Guantanamo. Er hat mir auch viele Fotos gezeigt und viel von erzählt, dass es sehr schön war.
J'avais un ami qui avait déjà fait un voyage auparavant et qui m'en a parlé et qui m'a montré des photos et m'a dit combien c'est beau.
Ich war damals 19 Jahre alt, sie haben mir 5 Jahre von meinem Leben weggenommen.
À ce moment-là, j'avais 19 ans et ils m'ont pris 5 ans de ma vie.
Daraufhin haben sie gesagt, halt, ich bin auf einem karibischen Inseln, ich sollte mich entspannen.
Ils m'ont répondu que je suis dans les îles Caraïbes et que je devais me détendre.
I guess you want to be in these fucking things forever, huh? That's what you want to be? You want to be in here for fucking ever? Don't fucking lie to me!
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si je suis avec Mourad Kurnaz dans l'enfer de Guantanamo.
Flight number 2, arriving from New York.
J'ai en face de moi un garçon très costaud, hein, qui fait de l'haltérophilie, qui est très très baraqué. C'était le cas déjà à l'époque, tu t'entraînais, tu étais très sportif.
Ich habe mit zwischen 7 und 8 Jahren angefangen zu trainieren. Ich habe mit Judo angefangen zu trainieren und habe sehr viele Kampfsportarten trainiert und Sport ist für mich sehr wichtig, was mir auch Spaß macht. Ist auch mein Hobby immer noch heute.
C'est déjà à l'âge de 7 ou 8 ans que j'ai commencé à faire de la musculation. J'ai fait du judo et je le fais toujours. Sport, c'est quelque chose que j'aime bien. Et...
Ça t'a permis de tenir le coup?
Ich glaube nicht. Also,
je ne crois pas.
Ganz im Gegenteil, ein Mensch, der mehr wiegt und braucht mehr Kalorien und mehr zum Essen. Das ist, ich glaube, vielleicht sogar schwieriger gewesen.
Je ne crois pas que c'est ce qui m'a permis de tenir bon, parce que quelqu'un qui est plus fort et qui a un entraînement comme ça, il a besoin de plus de nourriture et plus de sport pour tenir bon.
Außerdem haben die so Leute, halt, wenn sie gesehen haben, dass jemand kräftig ist oder stark, da haben sie auch durch Angst auch ein bisschen mehr geschlagen.
Et quand ils ont vu que quelqu'un est plus fort et plus costaud, ils ont des tendances plutôt à battre plus.
Da haben sie halt halt viel besser aufgepasst und jede Gelegenheit halt halt richtig reingenommen.
Comme ça, ils ont sauté à chaque occasion de me donner un coup.
Und das hat sich halt, das haben sie halt alles notiert und dementsprechend haben sie auch mich behandelt mit sehr viel Vorsicht.
Ils avaient noté tout ça et les plus faibles les traitaient avec un peu plus de prudence.
Est-ce que tes parents étaient au courant de ton arrestation, que tu étais à Kandahar, que tu étais en Afghanistan dans ce camp?
Irgendwann haben sie es erfahren, aber ich weiß nicht ganz genau wann. Wir durften keine Briefe schreiben, wir haben keinen Besuch gehabt, kein Telefonat, kein gar nichts, kein Anwalt.
Ils l'ont appris, mais je sais pas quand exactement, car nous avons pas droit d'écrire des lettres, d'avoir un contact quelconque.
Move it! Hands on your head! Don't move! Don't you fucking move! Up, move it, come on! Come on, move it, move it! On your knees! Lie down, put your legs out!
Il m'arrivait de penser aux oiseaux que nous avions à la maison du temps où j'étais enfant et même adolescent. Quand je les voyais enfermés dans leur cage, j'avais parfois de la peine. Au camp X-Ray, les oiseaux s'approchaient souvent de moi car je leur donnais à manger des petites boulettes de mie-pain que je gardais dissimulées sous mes vêtements et sous mon matelas en cachette des gardiens. Au début, ils étaient craintifs Mais au fur et à mesure, ils sont devenus plus confiants et certains se risquaient même à travers les mailles du grillage sur tous les petits sunsuncitos avec des plumes bleues, blanches et rouges et qui n'étaient pas plus gros que des sauterelles. Leur taille leur permettait de se faufiler à travers les grilles du camp. Et c'était une joie de les voir revenir vers moi. Un premier sunsuncito traversa le grillage, puis d'autres se lancèrent à leur tour et je leur parlais. Je leur disais, dans quel monde curieux nous vivons. Autrefois, vous étiez dans une cage et j'allais vous voir. Aujourd'hui, je suis dans la cage et c'est vous qui venez me voir.
Pakistan.
Celui qui parle ainsi, celui qui écrit ces lignes, c'est le Taliban de Brême. Le Taliban de Brême, c'est ainsi qu'on l'a surnommé en Allemagne. Et parce qu'il est né à Brême, et parce qu'on a cru qu'il était un taliban, on a fait croire qu'il était un taliban, ce qui n'est pas vrai, ce qui s'est avéré absolument faux. Et c'est son histoire qu'il raconte, son témoignage qu'il donne dans un livre chez Fayard qui s'appelle « Dans l'enfer de Guantanamo ». Et Mourad Kournaz est avec nous aujourd'hui, il a 24 ans maintenant, et il a passé 5 ans, dans l'enfer de Guantanamo. On peut dire l'enfer de Guantanamo, on a des reportages, des témoignages qui s'accumulent sur ce lieu de non-droit où des soupçonnés, on peut pas dire des accusés puisqu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de tribunal, simplement des hommes sont enfermés toujours aujourd'hui dans ce camp de Guantanamo. Et Mourad Kournaz y a passé donc 5 années. Pour situer un peu le bonhomme qui est en face de nous aujourd'hui, il est né en Allemagne de parents turcs. À 18 ans, il n'a pas opté pour la nationalité allemande. Et c'est un adolescent un peu idéaliste. Et juste après le 11 septembre 2001, il décide de partir au Pakistan. Il est musulman, très très croyant, et il décide de partir au Pakistan pour conforter sa religion, sa foi, dans une madrasa près de Peshawar. Et là, il va y passer 2 mois. Et au moment de son retour, quand il revient avec les cadeaux pour la famille, avec son billet d'avion de retour, etc., il va être arrêté par les forces de police pakistanaises. Il va être maltraité, puis vendu, littéralement vendu, c'est ce qu'il affirme, aux autorités, aux services américains qui vont d'abord le transférer à Kandahar, en Afghanistan, puis ensuite à Guantanamo Bay, à Guantanamo. Et c'est cette histoire qu'il raconte parce que très vite, on va se rendre compte avec torture, mauvais traitement, etc., etc., qu'il est innocent. Et les autorités américaines vont le faire savoir aux autorités allemandes. Et les autorités allemandes vont bloquer le retour de Mourad Kournaz. C'est aujourd'hui, en Allemagne, une affaire de tout premier plan, parce que celui qui porte la responsabilité de ce refus du retour de ce jeune homme, eh bien, est actuellement ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'Angela Merkel. Et il y a une pression de la presse, d'une partie des médias, d'une partie de l'opinion pour avoir toute la vérité sur cette affaire. C'est donc une affaire politique importante en Allemagne et c'est bien évidemment une page particulièrement pathétique et dramatique de ce qui a été initié au lendemain du 11 septembre 2001, c'est-à-dire la guerre contre la terreur. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis avec Mourad Kournaz dans l'enfer de Guantanamo.
Terrorist. school out in the automatic. Rat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-a-tat-
Push up on this set, it's a homicide, and I dead it. I bet it's the lyric, deeply embedded into his head. It's conniption, convulsion, conjured by motion. I said it, orphan, it's orphan, like Kenny Orphan. I'm tossing out from the field. You see, it's the international slicer, monster slasher, Paul Lasser. Section wrecking like Tekken, karate fight, rhyming, repping. Move out with special protection, my special move. My spinning glass, I rotation the words into a boomerang. Retrieving the thing, deadly incision, blood sucking vampire bat fang. Show up Bay Area werewolf in London, around the UK. Well, the wolf, how will eat shit and all be away. My mangle style deformed the artist, leaving his Lexus in his Lexus. With an ugly bra, smelling like Nexus. Using Humexes, smoking Marlboros. AIDS infectious, weighing less than your gold necklace. She'll share the needle, I know. I'm not addicting a second. That's why I keep on inflecting and return. Different human being each ripping. Terrorists, 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 terrorists. T-E-R-R-O-I-S, the terrorists.
Alors pourquoi vous décidez de partir au Pakistan? Vous aviez 19 ans.
Ich war dort auf einer Schule von Jamaat al-Tabligh.
J'ai été à une école de Jamaat al-Tabligh.
Ce qu'on appelle le Tablir.
Jamaat al-Tabligh. Die Jamaat al-Tabligh gibt's überall auf der Welt, nur deren originale Abstammung ist aus Pakistan.
Cette école est dans le monde entier et l'origine est le Pakistan.
Und ihre größte Schule ist in Pakistan.
L'école la plus grande est au Pakistan.
Ich habe Jamaat al-Tabligh in Bremen kennengelernt. Sie gibt es überall auf der Welt. Sie haben kleine Gruppen, die sich aufhalten in Bremen. Ich habe sie dort kennengelernt und die haben mir halt von Pakistan erzählt, von ihrer Schule, dass man dort Unterricht nehmen kann. Für mehrere Monate oder Wochen.
J'ai connu des petits groupes à Brême et ils m'ont parlé des écoles, de l'école au Pakistan. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller pour prendre des cours.
Oui, votre départ au Pakistan, c'était le 3 octobre 2001, c'est-à-dire très très peu de temps après le 11 septembre.
Ich hatte meine Reise schon vor dem 11. September geplant gehabt.
J'avais planifié le voyage déjà avant le 11 septembre.
Und daher habe ich auch nichts daran geändert. Auch nach dem 11. September.
C'est pour ça que je n'ai rien changé, même après le 11 septembre.
Ce séjour au Pakistan, c'était où? C'était à Lahore?
In Mansour Center, Lahore.
Au centre Mansour de Lahore.
Et est-ce que vous aviez le projet ensuite de passer en Afghanistan ou vous vouliez rester simplement au Pakistan dans cette école?
Ich hatte nie vor, nach Afghanistan zu reisen.
Je n'avais pas l'intention d'aller en Afghanistan.
Und Geschenke für meine Eltern von der Reise schon alles eingepackt und in der Tasche. Und mein Rückflugticket hatte ich auch schon bereit nach Deutschland.
J'avais déjà mon ticket de retour pour l'Allemagne. J'avais des cadeaux pour mes parents dans mes bagages.
Et c'est là que vous avez été arrêté.
Ich war im Bus, in einem normalen Bus zum Flughafen.
J'étais dans un bus allant à l'aéroport.
Ich dachte, es ist nur eine ganz normale Passkontrolle. Ich habe dir mein Visa gezeigt, was ich hatte noch mehrere Wochen, bis es ablaufen würde.
J'ai pensé que c'était un contrôle de passeport. Je leur ai montré le visa qui valait encore pour quelques semaines.
Und ich dachte, die würden nach dieser Passkontrolle mich einfach gehen lassen.
J'avais cru qu'ils allaient me la relâcher après ce contrôle de passeport.
Aber ich habe nicht gewusst, dass die Amerikaner Kopfgeld ausgesetzt hatten.
Et je savais pas qu'ils avaient misé sur ma tête, les Américains.
C'est-à-dire que ce que vous dites dans le livre, c'est que vous avez été vendu par les services pakistanais aux autorités militaires américaines.
Das war deswegen in Pakistan sind $5,000 sehr viel Geld.
5000 dollars au Pakistan sont beaucoup d'argent.
Und deswegen haben sie fast jeden Ausländer, den sie konnten, festgenommen und an die Amerikaner verkauft.
Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté le plus d'étrangers possible pour les vendre aux Américains.
Comment vous savez que vous avez été vendu?
C'est les avocats qui ont écrit des lettres et nous ont raconté cette histoire de prime.
Da habe ich die Amerikaner im Verhör gefragt. Also, ich habe gesagt, dass die mich für $5,000 gekauft haben. Da haben sie gesagt, nein, es waren nur 3.
Pendant le procès, j'ai demandé aux Américains pourquoi ils m'ont vendu pour $5,000. Et puis, ils ont dit, mais non, c'était seulement 3 000.
Alors, vous avez été donc arrêté à Peshawar au Pakistan, vendu aux forces américaines qui vous transfèrent en Afghanistan à Kandahar. C'est là que vous avez été mis en contact avec les forces spéciales allemandes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et ce qui s'est passé?
Es war so, es ist nicht die KSK ist nicht für mich gekommen, sondern sie waren sowieso schon da und hatten dort patrouilliert.
Le KSK n'est pas venu pour moi, il était déjà dans la région.
Ça veut dire que les autorités allemandes ont très rapidement su que vous étiez détenu par les forces américaines.
Ja, das wussten sie auf jeden Fall.
Oui, ils le savaient en tout cas.
À quel moment vous avez été transféré à Guantanamo?
Also, das war zwischen... Ich weiß nicht ganz genau, welchen Monat noch, aber es war... Also, ich muss hier noch erwähnen, wir haben die Uhrzeit wissen dürfen, wir haben keine Uhren haben dürfen und wir durften noch nie nach der Uhrzeit fragen oder Datum, sonst was. Und nur ich bin circa ein paar Monate in Kandahar geblieben.
Je suis resté quelques mois au Kandahar, mais on n'avait pas droit d'avoir des montres, on savait pas l'heure, on n'avait pas droit de demander. Je peux pas le dire exactement.
Comment vous étiez traité à Kandahar?
Jeder wurde gleich behandelt. Sie haben uns hungern lassen und sie haben uns der Kälte ausgelassen, also zum Teil ohne Kleider. Und
chacun a été traité de la même façon et ils nous ont laissé affamés, on nous a exposés au froid, en partie privés de vêtements.
Also sie haben uns gefoltert bis so viel sie konnten und einige sind sogar dabei gestorben durch diese Folter.
Ils nous ont torturés tant qu'ils pouvaient et il y en avait des morts.
Ich selber wurde bei Ketten aufgehängt für mehrere Tage. Mit Zwischenpausen haben sie mich runtergebracht, damit ich nicht sterbe, sondern dass der Arzt gekommen hat, geguckt, ob ich noch am Leben bin und noch aushalten kann. Dann haben sie mich wieder aufgehängt. Das ging für ein paar Tage so.
Ils m'ont suspendu par des chaînes et m'ont laissé comme ça. Puis ils sont venus regarder si je vis encore. Après, ils ont recommencé.
Es waren fast immer die gleichen Fragen. Also es waren eigentlich nicht Fragen, sondern es waren Sachen, die sie von uns hören wollten.
C'était à peu près toujours les mêmes questions. En fait, c'était pas des questions, mais ils voulaient entendre de nous certaines choses.
Sie haben gesagt, du bist von Al-Qaida, und wenn ich nein gesagt habe, haben sie geschlagen.
Et ils ont prétendu que j'appartiens à Al-Qaïda et quand je dis non, ils m'ont battu.
C'est ça qu'ils voulaient savoir. Ils voulaient se prouver que tu appartenais à Al-Qaïda.
Ja, sie wollten, dass ich halt Papiere unterschreibe oder sage, dass ich von Al-Qaïda bin. Und immer wieder, wenn ich nein gesagt habe, haben sie halt geschlagen.
Ils voulaient que je signe des papiers comme quand j'appartiens à Al-Qaïda et quand je l'ai pas fait ou quand je dis non, ils m'ont battu.
Sie haben halt getreten oder mit der Faust geschlagen und mich auf Ketten aufgehangen.
Ou bien ils m'ont foulé aux pieds ou battu avec les poings ou ils m'ont suspendu avec les chaînes.
Dans son livre témoignage, Mourad Kournaz décrit ce qu'il a subi à Kandahar et il n'est pas le seul, il y a d'autres témoignages qui concourent et qui convergent. Il y a un film qui s'appelle Road to Guantanamo qui raconte une histoire tout à fait semblable, sauf que ce sont de jeunes Anglais qui passent par les mêmes endroits et qui subissent les mêmes choses. Aujourd'hui, Mourad Kournaz, revenu en Allemagne, porte plainte avec ses avocats contre les forces spéciales allemandes, contre le KSK qui était présent donc à Kandahar et qui a participé à ces interrogatoires. Il faut mettre évidemment interrogatoire entre guillemets puisqu'il s'agissait plus de torture que d'interrogatoire. Il s'agissait de, on était dans les semaines qui suivait le 9 septembre. On était dans les jours qui ont suivi l'offensive en Afghanistan. Et la pression, la revanche, ce qui était rien d'autre qu'une revanche, c'est War on Terror, la guerre à la terreur, était dans toute son avancée, on peut dire. Et il décrit donc ces choses d'une façon tout à fait terrifiante dans ce livre. Et donc dès le départ, il faut bien garder ça en tête, les autorités allemandes savaient qu'il était là, que ce jeune allemand d'origine turque, enfin il a la nationalité turque, il n'a pas la nationalité allemande, mais vivant et né en Allemagne, était dans ce camp de Kandahar. L'histoire de Murat Kurnaz est connue, et notamment de Patti Smith, qui lui a consacré un chant. Finalement, tu as été transféré à Guantanamo. Est-ce que tu peux raconter ce transfert?
Sie haben uns lange Zeit vor dem Transport nichts zu essen gegeben.
Longtemps avant le transport, ils n'ont pas donné à manger.
Dann haben sie uns die Augen gefesselt.
Et puis ils nous ont bandé les yeux.
Und Ohrschutz aufgetragen.
Ohrschutz.
Also, damit man nichts hören kann.
Mis un bandeau sur les oreilles aussi pour qu'on n'entende pas.
Und halt Maske. Womit sie die Nase und Mund geschlossen haben.
Pour fermer le nez et la bouche.
Und uns halt gefesselt und Handschuhe aufgebracht, damit wir auch nichts anfassen können.
Et ils ont été ficelés, et ils avaient des gants pour ne pas toucher quelque chose.
Wo die ganzen Finger in ein Stück drin sind.
C'était des gants spéciaux pour qu'on touche rien. C'était wie Fäustlinge, non?
Ja, ja.
Oui, comme des moufles plutôt.
Und dann haben sie uns halt mit sehr vielen Ketten gefesselt im Flugzeug.
Ils nous ont enchaînés dans l'avion.
Und dann ging das halt, dann ging die Reise los. Und
puis le voyage a commencé.
Est-ce qu'on vous a dit où vous alliez? Est-ce qu'on vous a dit pourquoi vous étiez là?
Die haben halt nur Witze gemacht, wo sie uns ins Flugzeug gebracht haben. Die haben gesagt, ja, wir bringen dich irgendwo hin, wo wir dich abschießen und sonst was.
Ils ont fait des blagues dans l'avion et ils ont dit, on va te mettre quelque part ou on va t'exécuter.
Les autres prisonniers venaient d'où?
Aus 42 anderen Ländern.
De 42 autres pays.
International.
Auparavant, tu avais entendu parler de Guantanamo? Guantanamo Bay?
Ich habe einen Freund gehabt, der eine Reise gemacht hat in Guantanamo. Er hat mir auch viele Fotos gezeigt und viel von erzählt, dass es sehr schön war.
J'avais un ami qui avait déjà fait un voyage auparavant et qui m'en a parlé et qui m'a montré des photos et m'a dit combien c'est beau.
Wo ich angekommen bin, da haben sie uns geschlagen. Und,
quand je suis arrivé, ils ont commencé par me battre.
Später haben sie aufgehört zu schlagen, haben sie uns auf dem Boden knien lassen und Fotos von gemacht.
Puis ils ont arrêté de nous battre et ils nous ont forcé de nous agenouiller par terre et ils ont commencé à prendre des photos.
Dann haben sie uns halt irgendwann in einem Bus gesteckt und mit diesem Bus sind wir in eine Fähre gefahren, ein Schiff.
Et après ils nous ont embarqué dans un bus, avec ce bus on est allé sur un bac.
Also das habe ich alles wissen können, obwohl meine Augen zu waren, aber da bin ich mir ganz sicher.
Je suis tout ça malgré les yeux bandés, mais j'en suis sûr.
Und ja, dann haben sie uns irgendwann halt wieder die Augen aufgemacht vor irgendwelchen Käfigen.
Et puis ils nous ont ouvert les yeux devant des cages.
Et puis?
Ja, dann ging das halt weiter. Das, wir mussten in diese Käfige rein.
Ils nous ont forcé d'entrer dans ces cages.
Es sind halt diese ganz gewöhnlichen Hundekäfige, die jeder von uns kennt.
Ce sont les cages normales pour les chiens que tout le monde connaît.
Tu dis dans le livre, dans l'enfer de Guantanamo, tu dis que un gardien du camp te dit, est-ce que tu sais ce que les Allemands ont fait aux Juifs? On va te traiter de la même façon.
C'était un Américain parlant allemand.
Ah bon, c'est vrai.
Mais c'est vrai.
Alors là, les interrogatoires ont commencé. Tu racontes dans le livre toute une série d'interrogatoires, toute une série de tortures que tu subis, que subissent les autres détenus, qui vont depuis l'électricité, la pendaison, la privation de sommeil. Au moment où vous voulez faire votre prière, on a l'hymne américain qui est diffusé dans des haut-parleurs. Est-ce que tu peux raconter un peu tout ça en quelques mots?
Bien, merci. Das war, sie haben halt fast bei jedem unterschiedliche Foltermethoden angewendet, und aber es fast bei jedem getan.
Ils ont utilisé des formes de torture différentes pour les différentes personnes, mais ils ont torturé tout le monde.
Und also ich selbst, mich haben sie mit der Elektrizität zum Beispiel gefoltert.
Moi-même, ils m'ont torturé avec de l'électricité.
De quelle façon?
Aus Metall, und da war noch ein Box dran gebunden, wo dann Kabeln zu diesen Bügeln führen. Und dann haben sie das aneinander gerieben. Aus Metall halt.
C'était des barres de métal et c'était, il y avait des câbles électriques branchés dessus et puis ils ont frotté.
Torture à l'électricité.
Teilweise Metall mit Plastikgriffen und sonst was.
Qu'est-ce qu'on voulait te faire dire? Quelles étaient les questions qui t'étaient posées?
Was wollten sie aus dir herausbringen?
Die wollten, dass ich erstmal ein Papier unterschreibe.
D'abord, ils voulaient que je signe un papier.
Und erstens, ich konnte diese Papiere nicht mal lesen, das war nicht auf meine Sprache.
D'abord, je pouvais pas lire, c'était pas ma langue.
Aber ich konnte sehen, dass da viele Wörter drin standen mit Al-Qaida, Taliban und sonst was.
Ce que j'ai compris, c'est qu'il était souvent question de Taliban et d'Al-Qaida.
Ich war damals 19 Jahre alt, sie haben mir 5 Jahre von meinem Leben weggenommen.
À ce moment-là, j'avais 19 ans et ils m'ont pris 5 ans de ma vie.
So, dies alles andere mit diesen Elektrizität und so, das war nur vorübergehend.
Et toutes les autres choses, avec l'électrification par exemple, c'était quelque chose d'éphémère.
Aber diese Jahre, die sie mir weggenommen haben, von meiner Familie, weit weg, das wird mir natürlich keiner ersetzen können. Und das ist ein anderes Folter, das wahrscheinlich kein anderer versteht.
Et ces années dont ils m'ont privé, loin de ma famille, c'est quelque chose que personne ne peut comprendre.
Les premières images donc de la base de Guantanamo à Cuba, où sont détenus les plus méchants des membres d'Al-Qaïda et du mouvement taliban, pour reprendre l'expression d'un officiel américain.
War on terror. Terror. President Bush telling the United Nations the time for sympathy has passed, the time for action has arrived. Mr. Bush says the duty to fight terrorism is a binding obligation on every country with a place at the United Nations.
Terroriser le terrorisme, c'est se comporter en terroriste et c'est fabriquer des terroristes. le livre de Mourad Kurnaz dans l'enfer de Guantanamo décrit ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer sur cette base, vous le savez, qui est une enclave dans l'île de Cuba, où depuis le début de 2002, depuis plus de 5 ans, sont enfermés des hommes soupçonnés ou accusés d'être des terroristes, de collaborer avec Al-Qaïda, avec Ben Laden, etc. Mais sauf que la plupart de ces hommes sont innocents ou n'ont rien à voir avec cette histoire. Et la façon dont ils sont traités est hors des droits les plus élémentaires. Récit de Mourad Kurnaz. Tu racontes dans ton livre que parmi les moyens de pression et dans les interrogatoires, il y avait des femmes qui vous provoquaient sexuellement.
Ja, sie haben es halt versucht, dass sie haben alle möglichen Methoden versucht anzuwenden, damit sie uns erpressen können oder das war auch eine andere Art von Folter. Natürlich, sie wussten, dass wir als Moslem sowas nicht machen und deswegen haben sie es auch angewendet.
Ils ont essayé différentes choses et ça aussi. Et ils savaient que les musulmans, ils n'avaient pas droit de réagir à ceci.
Tu dis dans ton livre que des médecins assistaient aux tortures. Pourquoi exactement?
Weil der erste, zum Beispiel, wo ich auf Ketten gehangen habe, da haben sie mich immer wieder runtergenommen und geguckt. Die Ärzte sind gekommen, haben uns unsere Finger auf die Finger gedrückt, Fingernägel. Und geguckt, ob wir es noch durchhalten. Puls gemessen oder sonst was und uns in die Augen geschaut mit Lampen. Damit sie wussten, ob wir noch weiterhin Folter aushalten können oder dass wir jetzt sterben werden und dass die eine Pause einlegen müssen.
Oui, par exemple, quand ils ne suspendaient pas les chaînes, il y a des médecins qui sont venus vérifier où on en est. Ils ont appuyé sur les ongles, ils ont regardé avec la lumière dans les yeux, ils ont pris le pouls pour savoir combien de temps on tiendrait encore, si le possible de continuer encore.
Tu arrives à Guantanamo en janvier 2002, et à partir de septembre 2002, les services américains considèrent que l'innocence est établie, selon les pièces et selon les documents auxquels on a pu accéder.
Es war im 2002 schon klar, dass ich unschuldig bin.
C'était déjà clair en 2002 que j'étais innocent.
Und die Amerikaner haben auch die deutschen Behörden angeboten und gesagt, ihr könnt kommen und Mourad Kurnaz abholen.
Et les Américains ont proposé aux autorités allemandes de venir chercher Mourad.
So, da haben die Deutschen gesagt, wir haben kein Interesse und dass sie mich nicht haben wollen würden.
Et puis les Allemands ont dit qu'ils ne sont pas intéressés et qu'ils ne voulaient pas de moi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en septembre 2002, les services américains considèrent que Mourad, que tu es innocent, qu'il n'y a aucune charge contre toi. Ils le font savoir aux services allemands. Les services allemands sont également persuadés de ton innocence, mais ils te laisseront encore 4 ans dans ce camp.
Circa 4,5 years.
À peu près 4 ans et demi encore.
Est-ce qu'à l'intérieur de Guantanamo, tu pouvais comprendre tout ça?
Ich habe das erst circa 4 Jahre später erfahren.
Non, j'ai appris ça seulement 4 ans après.
En 2006.
2006, ja.
Selon toi, quelle est la part d'innocents parmi les détenus de Guantanamo? Quels sont ceux qui, effectivement, sont des combattants? Ce qui n'est pas forcément, d'ailleurs, une faute. Et quels sont ceux qui n'ont vraiment rien à voir avec le djihad et avec le combat? Est-ce que t'as une idée du pourcentage?
Diese Leute, die mit Dschihad zu tun haben, die haben das auch ganz offen und ehrlich erzählt. Die haben das nicht verschwiegen.
Les gens qui sont engagés dans le djihad, ils n'ont pas tu ceci, ils ont parlé ouvertement de leur engagement.
Es waren wenige und die waren auch bekannt zwischen uns.
Il n'y en avait que peu, mais eux, ils étaient connus entre nous.
Also, wer von der Taliban war, hat gesagt, ich bin von Taliban, ganz stolz.
Et ceux qui s'appelaient Taliban, ils le disaient fièrement de l'être.
Und haben es auch den ganzen Wärtern nochmal erzählt, meinten, wenn ich hier rauskomme, werde ich euch töten.
Et ils ont dit, le jour où je sortirai d'ici, je vais vous tuer.
Das war den Amerikanern bekannt und auch zwischen uns waren diese Leute bekannt halt.
Les Américains les connaissaient, nous aussi.
to Pakistan to breathe the Quran. Taken into custody with no reason why. Sent to the prison camp with nothing for me. As an enemy combatant, an enemy for long years. I'm flying home, chained to the floor, a version of free. They say I walk strange, well that may be so, but by long years hardly walked at all.
Tu avais un avocat?
Ich hatte einen Anwalt, von dem ich auch nie gewusst habe, den ich erstes Mal 2004 oder 2005 gesehen habe und sprechen durfte.
J'avais un avocat, mais je n'étais pas au courant. Je l'ai vu pour la première fois en 2004-2005.
Le personnage qui est visé en Allemagne, c'est un certain Frank-Walter Steinmeier, qui, à l'époque, en 2002, était chef de la chancellerie fédérale de Gerhard Schröder, et qui, lui, a refusé ton retour pour ne pas être soupçonné de soutien au terrorisme international. C'était ça la raison.
Ja, aber kein einziges Gerichtsurteil hatte ja gesagt, dass ich ein Terrorist bin.
Mais il n'y avait pas un seul jugement qui a dit que j'étais terroriste.
Er hat das Sagen gehabt damals über meine Geschichte und er hat die Entscheidung getroffen, dass ich weiterhin dort bleibe.
C'est lui qui avait droit de décider en ce qui me concerne et c'est lui qui a décidé que je reste.
Und das alles ohne irgendeinen Beweis gegen mich zu haben.
Et tout ça sans avoir aucune preuve contre moi.
Und aus ohne irgendeinen Grund.
Et sans aucune raison.
Pendant ce temps-là, il y avait des agents des services allemands qui venaient à Guantanamo et on était au courant de ce qui se passait. On savait très bien quelle était ta situation de l'extérieur, du point de vue des services allemands, comme des services américains, et du gouvernement fédéral allemand.
Das wussten Sie ganz genau. Ich habe
die Regierung wusste ça.
Das wussten Sie auf jeden Fall, weil erstens die KSK war schon in Kandahar. Sie haben selber gesehen, was da, wie die Gefangenen behandelt werden.
Oui, il le savait très bien. Le KSK était à Kandahar. Il savait aussi ce qui s'est passé là-bas.
Und auch wo sie mich in Guantanamo besucht haben, habe ich denen ganz genau erklärt, wie ich behandelt werde und was es für Foltermethoden dort gibt.
Et quand ils m'ont rendu visite à Guantanamo, je leur ai dit exactement ce qui s'est passé.
Und daraufhin haben sie gesagt, halt, ich bin auf einem karibischen Insel, ich sollte mich entspannen.
Et ils m'ont répondu que je suis dans les îles Caraïbes et que je devais me détendre.
Pour revenir à Frank-Walter Steinmeier, aujourd'hui, il est ministre des Affaires étrangères du gouvernement Angela Merkel. Est-ce que tu l'as rencontré?
Steinmeier? Nein. Er hat nur gesagt, dass sein Verhalten richtig war und wenn es nochmal passieren würde, würde er genau dasselbe tun.
Il a seulement dit que son comportement était correct et si le cas se posait encore une fois, il ferait la même chose.
Dass er sich auch niemals entschuldigen wird, weil eine Entschuldigung wäre nur für eine falsche Tat da und dass er nichts falsch getan hat.
Et il ne veut pas non plus s'excuser parce qu'une excuse, ça signifierait qu'il a mal agi, mais comme ce n'est pas le cas, il ne
veut pas le reconnaître. On dit que c'est Mme Angela Merkel qui a permis ta libération. Elle en aurait parlé au président américain Bush. Est-ce que c'est vrai?
Das stimmt.
Oui, c'est vrai.
Nur sie steht heute hinter Steinmeier.
mais elle défend Steinmeier aujourd'hui.
Qui est son ministre des Affaires étrangères.
Yeah.
Arrivé en Allemagne, tu as pu retrouver ta famille tout de suite ou bien?
Wir sind auf einem amerikanischen Stützpunkt gelandet.
Nous sommes arrivés dans une base militaire en Allemagne.
Da sind drei zivile Polizeibeamten gekommen, deutsche Polizeibeamten.
Et là, il y avait trois policiers allemands qui se sont présentés.
Und hatten schon mit ihren Wagen genau vor diesem Flugzeug geparkt, vor diesem Militärflugzeug.
Et ils avaient attendu avec les voitures devant cet aérodrome.
So, wir sind runtergelaufen, ich musste runterlaufen, da haben sie mich ganz unten am Flugzeug, haben sie mir alle die Fesseln abgenommen, Augen aufgemacht.
Je suis descendu de l'avion, là ils m'ont délivré de mes bandes sur les yeux, de mes ligotements.
Und da haben die deutschen Beamten mir einen Brief in die Hand gegeben und meinten, dieser Brief wäre von meiner Mutter.
Depuis les Allemands m'ont donné une lettre et c'était une lettre de ma mère.
So, es stand auf diesem Brief, dass es deutsche Beamten sind und dass ich denen trauen kann, dass sie mich zu meiner Familie fahren werden.
Et là a été écrit qu'il s'agit d'Allemands en qui je pouvais avoir confiance et qu'ils allaient me conduire chez ma mère.
So, dann sind wir in diesem Wagen gestiegen und fuhren eine Weile. Dann habe ich meine Familie bei einem Roten Kreuz-Gebäude getroffen.
Et puis nous sommes montés dans cette voiture, il y avait un petit trajet à faire, et puis on s'est arrêté devant une station de Croix-Rouge où j'ai rencontré ma famille.
So, ich hatte mich natürlich, ich hatte meine Brüder, meinen Mutter, Vater gesehen und Anwalt.
Et puis là, j'ai vu mes frères, ma mère, mon père et mon avocat.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes parents? Qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère?
Sie haben alle geweint. Ja.
Ils sont tous pleurés.
Also, sie haben alle geweint. Ich habe nicht geweint. Und,
moi, je n'ai pas pleuré.
Ich weiß nicht, ob ich es verlernt habe in Guantanamo, diese Zeit lang zu weinen. Aber
peut-être j'ai oublié comment on pleure.
Ich konnte nicht weinen. Aber
je n'ai pas pu pleurer.
Es war so halt, ich hatte mich gewundert, meine Frau, die ist nicht dabei gewesen.
J'étais étonné que ma femme n'était pas là.
Und ich wollte natürlich wissen, wo meine Frau ist.
Ich wollte savoir où elle était.
Ich wollte sie natürlich wenigstens anrufen.
Ich wollte au moins l'appeler.
So, ich wollte sie anrufen, damit sie kommt und dass wir uns sehen können.
Je voulais l'appeler pour qu'elle vienne et pour qu'on puisse se voir. Mon père m'a dit qu'on n'allait pas se voir.
So, habe ich gefragt, wieso nicht? Da meinte mein Vater, dass wir geschieden sind.
Et puis j'ai demandé pourquoi, et mon père m'a répondu qu'on était divorcés.
Also, die Freilassung, das war natürlich ganz schön, ein schönes Gefühl.
La libération, c'était un sentiment extraordinaire, mais...
Aber auch nicht so, wie ich es ganz genau erwartet hatte.
Mais c'était pas tout à fait ce que j'avais attendu.
Merci à Mourad Kournatz. Traduction Irène Besson, à lire dans l'enfer de Guantanamo de Mourad Kournatz, paru chez Fayard. Et puis nous vous signalons que la pièce Guantanamo sera jouée du 7 mars au 25 avril au Théâtre du Chêne Noir dans le 20e arrondissement de Paris. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, rubrique émission, là-bas si j'y suis. À la technique cet après-midi, il y avait Julien Chabassu et Farid Chibani, réalisation Coy Nguyen et Raphaël Mouterde, assistante Charlotte Perry, chef du répondeur Christophe Imbert. Le numéro du répondeur de la Bassie J'y suis, le 01 56 40 37 37.